France Musique.
Un nouveau point sur l'actualité avec Thomas Larabie. Bonjour Thomas.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Des villes entières évacuées en Australie. Depuis 48 heures, des milliers de locaux et de touristes fuient les flammes et quittent la côte sud-est de l'île. Les pompiers ne parviennent plus à contenir les incendies qui ont brûlé 400 hectares de terre sur la seule journée d'hier, et un nouveau pic de chaleur pourrait aggraver la situation dans les prochains jours. Les voix s'élèvent en Australie pour demander au gouvernement des mesures contre le réchauffement climatique, mais le Premier ministre Scott Morrison a récemment renouvelé son soutien à la lucrative et très polluante industrie du charbon australienne. Nouveau bilan après les inondations à Jakarta. 18 personnes sont mortes et des dizaines de milliers d'habitants ont été évacués vers des abris provisoires. Les pluies torrentielles durant le réveillon du Nouvel An ont provoqué des glissements de terrain et submergé un grand nombre de quartiers. C'est la catastrophe la plus meurtrière dans la région depuis 2013. À Hong Kong, 400 personnes ont été arrêtées au jour de l'an lors d'un grand rassemblement pro-démocratie qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. De nombreuses personnes vêtues de noir ont afflué dans le cortège. Des manifestants ont formé une chaîne humaine pour leur transmettre divers objets, notamment des briques. La police a répliqué avec du gaz lacrymogène et des canons à eau. Près de 7000 personnes ont déjà été arrêtées depuis le début de ce mouvement. Carlos Ghosn tiendra une conférence de presse le 8 janvier à Beyrouth pour s'expliquer sur sa fuite. L'ex-PDG de Renault-Nissan a quitté Tokyo où il était libéré sous caution et placé en résidence surveillée depuis le mois de mars. Ce matin, les procureurs japonais ont mené une perquisition à son domicile à Tokyo. Le procès de Carlos Ghosn pour plusieurs accusations de corruption, malversation et dissimulation de revenus devait débuter au mois de mars prochain. En France, la nuit du Nouvel An a été très mouvementée à Strasbourg. Plus de 200 voitures ont été incendiées durant la nuit de la Saint-Sylvestre dans différents quartiers de la ville. C'est deux fois plus que l'an dernier. Les incendiaires sont de plus en plus jeunes, une dizaine d'années à peine pour certains. À leur arrivée, à plusieurs reprises, des policiers ont été visés par des tirs tendus de fusées. 7 fonctionnaires ont été légèrement blessés. Chez les pompiers, la colère et l'impuissance dominent. Cédric Hatzenberger est secrétaire général FO des pompiers du Bas-Rhin.
Là, nous venons de vraiment passer à une étape supplémentaire avec vraiment des collègues pris à partie. On voulait les tuer, on voulait les sortir du fourgon. Des jets de cailloux qui ont traversé donc les vitres, avec des collègues qui ont fini avec des points de suture et ils sont extrêmement choqués. On nous attire dans de véritables guet-apens. On veut se faire du sapeur-pompier, clairement. La police est totalement dépassée également, totalement dépassée. De toute façon, ça a commencé il y a déjà plus d'une semaine sur Strasbourg, où toutes les nuits, on atteint plusieurs dizaines de voitures brûlées. Il suffit en fait d'entendre que ce sont des jeunes désœuvrés qui n'ont pas de repères, qui n'ont pas... Non, on a affaire à une vraie délinquance organisée, qui sait parfaitement ce qu'elle est en train de faire. Là, on a franchi une étape qui est gravissime.
Cédric Hatzenberger, secrétaire général FO des pompiers du Bas-Rhin, au micro de Aude Razo. Il est 7h et bientôt 34 minutes sur France Musique. On retrouve tout de suite Jean-Baptiste Urbain pour la suite de Musique Matin.
Thomas Larabie, à tout à l'heure, 8h pour un nouveau journal. Voici 4 jeunes musiciens dans le vent de Haydn.
Thank you.
Il y a quelque chose d'ineffable au-delà des mots dans ce poignant premier disque Haydn du tout jeune quatuor Hanson. C'est une des révélations de ces derniers mois, en tout cas l'un des plus beaux disques de musique de chambre paru l'année dernière, avec ici le final de l'opus 77 numéro 2 de Haydn, l'un de ses derniers quatuors. Le quatuor Hanson qui sera la semaine prochaine, si je compte bien, le 12 janvier à Quimper au Théâtre de Cornouailles, qui plus est avec un clarinettiste poète, Pierre Génisson, que nous recevrons d'ailleurs plus tard dans le mois pour son nouveau disque. À 7h32, elle a eu 102 ans cette semaine. C'est sans doute la doyenne des chanteuses et des comédiennes françaises, même si elle s'est retirée des plateaux. Un clin d'œil ce matin à Suzy Delair et une danse, la Matchiche.
Un pas à la mode qui va vous charmer. Amoureusement, laissez-vous conduire gentiment. C'est la danse nouvelle. Mademoiselle, ainsi qu'une espagnole, lascive et folle, il faut combrer la taille d'un air canaille. Cette danse qui vous aguiche, c'est la Matchiche. Se pâme pour cette danse espagnole qui les rend folle, la Matchiche prenante et délirante. Maintenant fait fureur et mieux que le cake-walk, mais l'amour au cœur. Dites à vos amants de vous la montrer rapidement. C'est la danse nouvelle. La demoiselle, dans les bras d'un homme tendre, il faut la prendre. Je vous souhaite jusqu'à l'aurore, danser encore. Cette danse qui vous aguiche, vive la machiche. Tout doucement.
Olé, Suzy Delair, la Matchiche, qui avait été créée en 1905 par Mayol. Et si pour la nouvelle année, vous veniez assister à une émission concert de France Musique, l'entrée est libre, c'est gratuit, la prochaine c'est samedi, après-demain, Génération France Musique, le live c'est à 16h en direct du théâtre de l'Alliance Française, boulevard Raspail à Paris, il suffit de s'inscrire sur maisondelaradio.fr. Parmi les invités de Clément Rochefort après-demain, un chanteur hors norme, aussi bien ténor que baryton, aussi à l'aise dans le répertoire médiéval que dans la musique d'aujourd'hui. Ce musicien a la voix très claire, c'est Marc Moyon, il sera d'ailleurs notre invité dans Musique Matin dans 15 jours pour son nouveau disque qu'il consacre à Forêt et à ses poètes, Hugo, Baudelaire, Verlaine et les autres. Il en donnera quelques extraits à 16h sur France Musique, mais comme Marc Moyon aura carte blanche, il chantera aussi de la musique médiévale.
Sur toute
d'eau tout en nombre, 10 et 7, 5, 13, 14 et 15, c'est un roman d'amour courtois, codé, où le nom de l'amoureuse, Péronne, est remplacé par des nombres équivalents dans cette musique de Guillaume de Machaut, chantée par Marc Moyon et Viva Bianca Luna Biffi, et la sœur de Marc Moyon, Angélique, à la harpe. Carte blanche à Marc Moyon, samedi à 16h sur France Musique. Il est 7h46. Classique Info, Christophe Délis, bonjour Christophe.
Bonjour Jean-Baptiste.
On commence avec la promotion du 31 décembre de la Légion d'honneur.
Quelques professionnels de la musique figurent dans la promotion du nouvel an de l'Ordre National de la Légion d'honneur publié hier au journal officiel qui distingue cette année 483 personnes illustres ou inconnues nommées au grade d'officier. Nous y trouverons donc François-Bernard Mache, compositeur, professeur et membre de l'Académie des Beaux-Arts, Gilbert Montagnier, auteur, compositeur, interprète, et au grade de chevalier, Sylvie Foinon, maître d'art en restauration de piano, Jeanne Balibar, actrice, réalisatrice, chanteuse, Mario Bois, éditeur spécialisé en musique et en danse, Abdal Malik, auteur, compositeur, interprète et réalisateur, André Henry, trompettiste, Lorraine Villermo, la directrice de l'ensemble Les Talents Lyriques, et enfin la pianiste Vanessa Wagner.
Dans l'actualité musicale également, une disparition, celle du violoniste baroque Jaap Schroeder.
Jaap Schroeder, un des premiers violonistes à passer du violon moderne au violon baroque à la fin des années 60, est décédé hier à l'âge de 94 ans. Ce violoniste et chef d'orchestre néerlandais a étudié au conservatoire d'Amsterdam et à la Sorbonne. Dans les années 1960, il rejoint les rangs de l'ensemble Concerto Amsterdam sur instruments modernes et enregistre aux côtés de Gustav Leonhardt, Anner Bilsma ou encore Franz Bruggen. Il a longtemps été violon solo de l'Academy of Ancient Music dirigé par Christopher Hogwood avant d'être nommé directeur musical invité des Smithsonian Chamber Players en 1982 à Washington. Comme chaque semaine, un retour de spectacle par Guillaume Thion en partenariat avec Libération. Bonjour Guillaume.
Bonjour Christophe.
Où étiez-vous cette semaine ?
Au théâtre Marigny pour une représentation de Funny Girl. Mais j'aurais tout aussi bien pu être à Broadway, car dès qu'on se retrouve dans une salle dirigée par Jean-Luc Chopin, on a l'impression d'arriver vers Times Square. Par exemple, en même temps que se donne sur les champs cette nouvelle production, s'éteint au théâtre du Châtelet la reprise d'Un Américain à Paris que Chopin avait monté il y a 4 ans avec des producteurs new-yorkais et qui a depuis triomphé à travers le monde, selon l'expression consacrée. Chopin, c'est le monsieur claquette du théâtre français, l'Américain à Paris, c'est lui. Et donc aujourd'hui, c'est Funny Girl. Alors, de quoi parle le spectacle ? D'une histoire d'amour.
Encore une fois.
Voilà, Christophe. Mais il y a des gens qui y croient, ne les écoutez pas tout de suite, laissez la vie s'en charger, comme nous le raconte le spectacle. Funny Girl décrit l'ascension de Fanny Bryce, une enfant de la balle rigolote et fonceuse, qui se retrouve star des Ziegfeld Follies, puis elle tombe amoureuse. L'œuvre est située dans les années 20, mais date de 1964, sur une musique de Jules Stein, un livret d'Isobel Lennart, et a par ailleurs été adapté au cinéma en 68 par William Wyler, avec Barbara Streisand et Omar Sharif. Au Marigny, c'est donc comédie musicale à tous les étages. Une vingtaine de musiciens amplifiés, chanteurs eux aussi amplifiés, qui poussent des notes longues dans le silence d'une interruption d'orchestre avant que tout le monde n'applaudisse. Incessant changement de décor, rythme frénétique chassant les séquences sans ménagement, humour juif new-yorkais peaufiné depuis 55 ans et troupeau de danseurs qui débarquent pour stupéfier l'auditoire avec des passages de claquettes synchronisés. Les participants, menés par l'irrésistible Christina Bianco, dont le parcours démarré sur YouTube est similaire à celui de Fanny, sont formidables dans le genre et même en faisant la fine bouche, c'est vraiment du beau, du bon, du Broadway, idéal pour les fêtes.
Elles sont passées les fêtes.
Mais idéal aussi pour tenir jusqu'au printemps car le spectacle a été prolongé jusqu'au 7 mars. Mais à mon sens, Christophe, ce qui fait la qualité de Funny Girl ne réside pas que dans son registre de comédie musicale. La relation entre Fanny et Nick est étonnante, si simplement rendue dans la pureté des intentions amoureuses et si désillusionnée au final que Funny Girl, avec ses projets à paillettes et ses conteneurs de sourires, se pose aussi comme un grand spectacle cynique. Broadway quitte le conte de fées marital pour une rupture brutale. On ne résout pas sur une équipe mais sur une solitude. L'Amérique des 60s discerne le choc des 70s. Et la scène s'ouvre à l'amertume de la société car Funny Girl est adaptée d'une histoire vraie. Et nous savons tous, Christophe, que la vie n'est pas drôle pour les petits cœurs battants.
Merci Guillaume Thion pour cette chronique en partenariat avec le quotidien Libération. On vous voit la semaine prochaine.
Tout à fait.
On termine avec une information à Leipzig, en Allemagne. L'église de Jean-Sébastien Bach a été vandalisée, Christophe.
C'est la police de Leipzig qui l'a annoncé hier. 25 vitraux de l'église Saint-Thomas et de l'adjacente Thomas House ont été détruits par jet de pierre durant la nuit du Nouvel An. Les vitraux endommagés au-dessus du portail ouest datent du 19e siècle et les vitraux Art Nouveau de la Thomas House ont été réalisés au début du 20e siècle. La Thomaskirche de l'église de Leipzig et l'église historique de Jean-Sébastien Bach où il y a interprété ses plus grandes œuvres. Il y repose depuis 1950, Jean-Baptiste.
Christophe Délis, Classique Info à retrouver sur francemusique.fr et dans cette église de Saint-Thomas, Jean-Sébastien Bach a forcément dirigé cette cantate. Ich freue mich auf meinem Tod. Je me réjouis de ma mort, s'il le dit. Extrait de la cantate Ich habe genug de Jean-Sébastien Bach, le banquet céleste chanté et dirigé par Damien Guyon. Extrait de son nouveau disque paru l'an dernier autour des deux cantates pour alto du compositeur, même si cette célèbre cantate qu'on écoutait à l'instant est plus connue dans sa version pour basse. Ce disque, Bach, Damien Guyon, le banquet céleste, c'est le disque à gagner ce matin. Allez, on joue comme tous les jours avec les concerts et les émissions concerts qui sont à revoir en vidéo sur francemusique.fr, comme ici, cette version d'un tango peut-être le plus célèbre d'Astor Piazzolla. Il est joué, ce tango, au saxophone, oui, mais combien de saxophones? C'est la question du jour. Thank you. Astor Piazzolla, Hubert Tango, au saxophone. Mais combien de saxophones? Votre réponse sur francemusique.fr. Thomas Larabi, lui, a trouvé. Et vous, rendez-vous dans une heure pour la réponse, pour gagner le disque Bac de Damien Guyon. A tout de suite.
Arabesque, de 13h30 à 15h, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Ses ancêtres ont grandi en Italie sous le soleil de la Campanie, mais c'est en Angleterre qu'il a vu le jour le 30 décembre 1959. Pour célébrer les 60 ans de Sir Antonio Pappano, nous vous proposons cette semaine 5 émissions retraçant le parcours de ce pianiste et chef d'orchestre à travers son abondante discographie. Happy birthday, Antonio Pappano. Tanti auguri.
Arabesque, de 13h30 à 15h, à retrouver sur France Musique et francemusique.fr. Vendredi 3 janvier, Yannick Nézet-Séguin est l'invité de France Musique. Le directeur musical du Metropolitan Opera de New York est au micro de Jean-Baptiste Urbain dans une interview exclusive pour Musique Matin. L'occasion de découvrir aussi cette star de la direction d'orchestre dans d'autres émissions de la journée. Et à 20h, concert avec le chef à la tête de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise dans Sibelius, Prokofiev et Richard Strauss avec le violoniste Gil Shaham. Toutes les infos sur francemusique.fr et en podcast.
Et oui, je vous emmène rencontrer Yannick Nézet-Séguin demain dès 8h, en tout cas si vous êtes sage. Bienvenue, il est 8h, vous écoutez France Musique. Un nouveau journal avec Thomas Larabi. Bonjour Thomas.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à tous. Qui dit nouvel an dit nouvelle promotion de la Légion d'honneur. Et cette année, un nom fait froncer de nombreux sourcils. Jean-François Cirelli, le patron du fonds BlackRock France, est élevé au grade d'officier de la Légion d'honneur. Problème, BlackRock est le premier gestionnaire d'actifs financiers au monde et il pourrait largement bénéficier de la retraite par points si la réforme est mise en place. Les explications de Delphine Simon.
Fondé en 1988, BlackRock est aujourd'hui le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Près de 7000 milliards de dollars, une somme équivalente à presque trois fois la richesse de la France. Fonds de pension, fonds souverains, sociétés d'assurance, environ les deux tiers de ces actifs concernent l'épargne retraite. Un tiers investi en actions, notamment dans des fleurons du CAC 40, Schneider Electric, Thales ou AXA. Avec Jean-François Cirelli, BlackRock s'est allié les services d'un familier des cercles du pouvoir. Cet ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous Jacques Chirac, ancien PDG de GDF et d'Engie, entretient des contacts réguliers avec l'exécutif. Dans une note intitulée « La loi Pacte, le bon plan retraite », BlackRock fait ses recommandations au gouvernement à propos de la réforme de l'épargne retraite. De quoi alimenter les soupçons de collusion? Certains, comme le député LR Olivier Marleix, souhaitent que BlackRock déclare ses activités de lobbying auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique.
Les explications de Delphine Simon et le mouvement de grève dans les transports contre la réforme des retraites bat aujourd'hui le record de 1987 avec 28 jours de blocage. Un livre qui ouvre à nouveau le débat du consentement, le récit autobiographique de Vanessa Springora, intitulé justement Le consentement, sort aujourd'hui en librairie. 30 ans après, Vanessa Springora y décrit sa relation avec l'écrivain Gabriel Matzneff. Elle avait 14 ans, lui 50, et personne ne l'avait protégée à l'époque, en pleine année 80. La question du consentement avait été tranchée par la loi contre les violences sexuelles en août 2018, mais le gouvernement a finalement renoncé à l'instaurer. Alors aujourd'hui, plusieurs associations veulent profiter de la publication de ce livre pour rouvrir le débat, Gaëlle Joly.
Encore très en colère, Muriel Salmona, psychiatre et présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, continue de réclamer cet âge minimal du consentement pour protéger les enfants, y compris d'eux-mêmes.
Quand il parle d'amour, un enfant, il parle en fait d'affection, mais pas de regard sexuel. Et c'est un piège affreux qui se referme sur l'enfant pour l'exploiter. C'est impératif, on ne peut pas ne pas protéger les enfants, parce que sinon ça veut dire qu'on accepte qu'ils soient détruits.
Si l'exécutif a fait machine arrière, c'est parce que la mesure risquait d'être jugée anticonstitutionnelle, ce que confirme Katia Dubreuil, la présidente du syndicat de la magistrature.
Ce serait forcément inconstitutionnel, ce serait contraire notamment au principe de présomption d'innocence, qui nécessite qu'on démontre que l'infraction pénale est caractérisée, aussi bien dans son élément matériel que dans son élément intentionnel.
Pour contourner cela, il faudrait quitter le terrain du consentement pour aller sur le critère de l'âge, estime Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal des enfants de Bobigny, spécialiste des droits de l'enfant.
Quelqu'un qui a plus de 18 ans ne peut pas avoir de relations sexuelles avec quelqu'un qui a moins de 15 ans. Si tu touches à un enfant, tu vas en cour d'assises.
Car l'urgence pour les militants, c'est de sortir au plus vite de cet état d'impunité. Selon une enquête Ipsos réalisée en septembre dernier, en France, 74% des plaintes pour viol sont classées sans suite.
Les précisions de Gaëlle Joly. Direction Genève, maintenant en Suisse, où une crèche a ouvert en plein milieu des bois. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, une trentaine d'enfants de 2 à 6 ans passent leur journée dehors, dans la campagne, à faire du feu et à jouer dans les arbres. Attention à ne pas faire les deux en même temps, Jean-Baptiste. Et le concept cartonne auprès des enfants, des parents, mais aussi des encadrants. Un reportage de Jérémy Lange.
Je crois que j'ai trouvé un champignon qui s'est planté là-dedans.
Oui, ça, c'est un champignon.
C'est du bleu. Ça fait joli.
Les températures sont encore relativement douces dans la campagne suisse en ce début d'hiver. Ruben et son ami Ernest peuvent donc essayer de débusquer encore quelques champignons ou bien terminer la construction de leur cabane en bois. Dans la nature, ce ne sont pas les activités qui manquent. Charles de Planta est le responsable de la crèche en forêt.
On peut parler du miel, par exemple, des abeilles. On peut autant avoir des livres, on peut présenter du miel, on peut goûter du miel, on peut aller se balader un peu plus haut, il y a des ruches. Donc on peut aller les observer, donc on arrive à faire des activités avec plusieurs pans du développement qui sont représentés, et ça c'est très très riche.
Ici, la météo est vue comme une variable, pas du tout comme un problème. Chaque saison amène son lot d'activités. Chloé Protet est l'une des animatrices.
Ils ont tout l'environnement pour pouvoir se développer et dépasser des défis que forcément un espace à l'intérieur offre moins. Moi j'ai toujours une petite sensibilité quand il y a un enfant qui m'a demandé plusieurs fois le nom d'une plante, d'un champignon ou quelque chose, et puis qui va expliquer après aux autres. Ça les fait grandir.
Les éducateurs l'assurent, dans la nature, les enfants se développent mieux et plus vite. Un constat partagé par Nathalie, la maman de la petite Anita.
Elle avait un petit côté Pierre Richard. Ce n'était pas le froid que je craignais ou les intempéries, c'était plutôt qu'elle se fasse mal. Mais en fait, j'ai bien remarqué très vite que la manière de se mouvoir dans l'espace a changé depuis qu'elle est à l'éco-crèche. Elle s'est ouverte.
Une centaine d'enfants sont inscrits sur liste d'attente. L'association à l'origine de la crèche espère maintenant ouvrir une école en forêt cette année à Genève.
Un reportage de Jérémy Lanche. La France n'aura pas de neige ce matin, mais le pays est coupé en deux. Un ciel nuageux sur la moitié nord, du soleil pour la moitié sud, à l'exception du pourtour méditerranéen. Côté température, comptez 0 à Strasbourg, 6 à Lyon, 10 à Limoges et 13 à Marseille. Il est 8h05 sur France Musique. On retrouve tout de suite Jean-Baptiste Urbain pour la suite de Musique Matin. Moi, je vais travailler mon saxophone, Jean-Baptiste, pour jouer du Piazzolla la prochaine fois.
J'ajouterai Thomas Larabie qui fait 23 à Fort-de-France, 24 à Cayenne et 28 à Saint-Denis-de-la-Réunion. Car nous allons parler de la vie musicale en Outre-mer dans une demi-heure. Très
qu'est-ce
bonne
qu'on
journée
fait ici avec cette température.
Très bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.